Vous écoutez On lit pour vous.
Sous surveillance. Un texte de Gabriel Anctil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Sans qu'on s'en rende compte, nos outils technologiques capturent de précieuses informations personnelles sur nos habitudes de vie, nos déplacements et nos opinions. Or, elles sont peu ou pas protégées, de quoi alimenter des systèmes de surveillance de plus en plus organisés et à une échelle sans précédent. Le document de 168 pages détaille chaque appel que j'ai passé entre 2024 et 2026. L'heure précise et le numéro composé sont indiqués, et un identifiant indique de quel tour téléphonique l'appel est parti et à laquelle il est arrivé. Bref, ma localisation est celle de mes interlocuteurs et interlocutrices. Pour obtenir cette information, il m'a simplement fallu faire une demande auprès de mon fournisseur téléphonique en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, LPR-PDE. Un mois plus tard, j'obtenais une pile de documents PDF qui détaillaient ma vie des deux dernières années. Cette démarche a rendu visible une réalité qui semble parfois intangible. La compagnie qui m'offre des services téléphoniques sait beaucoup de choses sur moi. Où j'étais, quand et avec qui je communiquais. Le type de fichier que j'ai texté à mes proches, une photo le 13 septembre 2025 à 21h27, un son à 22h01 le 6 janvier dernier. Cette entreprise n'est pas la seule à en savoir beaucoup à mon sujet. La plupart des applications sur mon téléphone, réseaux sociaux, musique et même celles de coupons rabais pour mon épicerie collectent des informations sur moi, parfois bien plus que ce que j'imagine. Dans un article paru en 2020 dans le Financial Post, le journaliste James McLeod avait dévoilé l'étendue des données que l'application de commande de la chaîne Tim Hortons avait amassées à son sujet. Je n'aurais jamais volontairement offert l'adresse de mon domicile, mon lieu de travail ou mes plans de vacances à Tim Hortons, mais la compagnie les a trouvés malgré tout, déplorait le journaliste dans son texte. Une requête en vertu de la LPR-PDE a révélé que l'entreprise avait enregistré sa localisation plus de 2700 fois en moins de 5 mois. Ensemble, ces données offrent un portrait étonnamment précis de nos habitudes de vie. « Si je voulais t'assassiner, ce serait parfait », soulignait en plaisantant dans le même article Erin Atwater, directrice de l'organisme de défense de la vie privée Open Privacy, qui a eu accès aux données du journaliste. Impossible aujourd'hui de détacher notre présence dans le monde numérique de ces données collectées par presque chaque site web que nous visitons et chaque application que nous téléchargeons. Celles-ci contribuent à alimenter des pratiques de surveillance de plus en plus sophistiquées et de moins en moins décriées. Combien de fois avez-vous dit ou entendu « Ce n'est pas grave si Facebook sait tout sur moi, je n'ai rien à cacher de toute façon. » Vraiment? Le produit, c'est vous. Ces données collectées par les entreprises privées ont un but principal, augmenter leurs profits. Dans certains cas, elles permettent de déterminer la meilleure manière de commercialiser un produit. Lorsque nous visitons le site Internet d'une entreprise de vêtements, par exemple, l'interface retrace nos actions. Comment sommes-nous arrivés sur place? Par une recherche Google ou en cliquant sur une publicité sur un réseau social? Quels produits avons-nous consultés avant d'acheter notre paire de souliers? À quelle étape du processus avons-nous abandonné notre panier et quitté le site? Pour obtenir ces informations, les entreprises se fient en majorité à deux services. Google Analytics, utilisé par 80 % des sites Web, ou le Pixel de Meta, présent sur 30 % des sites les plus populaires. Grâce à quelques lignes de code intégrées au site, les deux multinationales enregistrent nos déambulations sur le web et offrent en retour aux plus petites compagnies d'analyser les données les concernant. Pour Alphabet, propriétaire de Google, et Meta, Facebook, Instagram, il devient donc possible de suivre presque en tout temps ce que nous faisons en ligne. Ces données sont ensuite revendues à des entreprises courtières, data brokers, spécialiste de la collecte et de la revente. Ce marché, qui correspond à une part importante des profits des deux géants du Web, s'élève à lui seul à plus de 300 milliards de dollars américains. L'adage est vrai. Si le service est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Difficile de saisir l'ampleur des informations que ces entreprises détiennent. Notre localisation en fait partie, mais aussi l'identité des gens avec qui nous discutons sur des applications comme Messenger ou WhatsApp, aussi propriété de Meta, nos contacts sur les réseaux sociaux, les achats faits sur des sites comme Amazon. Ce portrait permet aux géants numériques de nous proposer des publicités avec une précision parfois troublante, ce qui nourrit l'idée répandue, mais erronée, que nos téléphones nous écoutent pour savoir quoi nous vendre. C'est cette constatation qui a mené Shoshana Zuboff, chercheuse émérite à la Harvard Business School, à développer le concept du capitalisme de surveillance. Alors qu'à une autre époque, l'extraction de minerais ou la récolte d'arbres fournissait la matière première à nos activités économiques, ce sont désormais les comportements humains, captés par des caméras, des GPS et des traceurs en ligne, qui servent d'intrants. Nous sommes les objets dont la matière est extraite, expropriée, puis injectée dans les usines d'intelligence artificielle, Ellipse, qui fabriquent les produits prédictifs vendus aux clients réels. Les entreprises qui paient pour jouer sur les nouveaux marchés comportementaux, expliquait la chercheuse dans un texte paru dans Le Monde diplomatique en 2019. Espionnage 2.0. Ces données ne servent pas qu'à des fins commerciales. Selon une récente enquête du journal Le Monde, au moins une quinzaine d'entreprises, dont la majorité sont sises en Israël, utilisent les données de géolocalisation issues des marchés publicitaires pour vendre des prestations d'Advertising Intelligence, ADINT. Elles promettent à des services de renseignement ou de police de suivre des millions de téléphones à la trace, à quelques mètres près. L'article ajoute, au prétexte que les données que ces outils proposent sont disponibles commercialement, les entreprises israéliennes peuvent, jusqu'à présent, librement les exporter et, en théorie, les vendre à n'importe qui, n'importe où dans le monde. L'un des exemples les plus frappants d'usage détourné est celui fait par l'ICE, la police américaine de l'immigration. Selon le Washington Post, l'ICE achète ses données commerciales pour pister ses cibles. En plus d'utiliser d'autres outils de surveillance, reconnaissance faciale, logiciels espions, drones. Elle obtient aussi assez facilement des informations personnelles de la part de Meta et de Google, adresses par exemple, visant à démasquer des comptes anonymes et ce, sans besoin de mandat judiciaire. Voilà qui soulève des problèmes majeurs en matière de libertés individuelles. Justement, la vie privée est souvent décrite par les spécialistes juridiques comme étant une condition préalable pour avoir accès aux autres formes de droits de la personne, lance Kate Robertson, chercheuse au Citizen Lab de l'Université de Toronto. Selon elle, la démocratie repose sur le respect de notre vie privée. C'est dans nos logiques que nous discutons de politique, que nous critiquons le gouvernement en place ou que nous nous organisons pour le contester. À l'inverse, un État autoritaire souhaitera surveiller sa population et prévenir toute grogne. Sauf que le droit à la vie privée est inégalement réparti, ajoute la chercheuse. Nos travaux démontrent que les militants des droits de la personne et les journalistes sont souvent ciblés par l'entremise des vulnérabilités d'outils technologiques, soit des bugs ou des failles de sécurité dans les outils utilisés au quotidien. Elle note aussi que les personnes sans abri ou souffrant de problèmes mentaux sont pour leur part hypervisibles avec la surveillance et la collecte de données, une pratique qui crée un cercle vicieux d'injustice. Mais personne n'est à l'abri. Selon un rapport publié en 2026 par Justin Sherman, vice-président de l'Alliance de la fonction publique aux États-Unis, la disponibilité, la collecte et la vente des données personnelles des fonctionnaires facilitent les menaces et la violence physique à leur encontre. Ce rapport analyse 19 lois américaines sur la protection de la vie privée et conclut qu'elles sont extrêmement insuffisantes pour protéger les fonctionnaires contre ces préjudices liés aux données. Comme on le voit aux États-Unis, la surveillance ne pose pas problème à la majorité des gens, jusqu'à ce que la situation politique de leur pays change et que ces gens deviennent des cibles de la surveillance. Vous écoutez « Sous surveillance », un texte de Gabriel Anctil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. La démocratie repose sur le respect de la vie privée. Au Canada, une nouvelle loi fédérale sur l'immigration, adoptée en mars 2026, facilite la transmission des informations des personnes migrantes entre les différents gouvernements provinciaux et fédéraux, notamment. Mais de nombreux organismes de défense des droits de la personne craignent que cela conduise au déni de services comme les soins de santé ou que cela permette à des employeurs de forcer des gens à accepter moins que le salaire minimum en utilisant leur statut migratoire comme outil de manipulation. Ce type de loi inquiète aussi Stéphane Lemans-Langlois, professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. On commence toujours par surveiller les personnes qui abusent de l'aide sociale, celles qui restent plus longtemps au pays que ce que leur visa permet. C'est une population que peu de gens vont défendre. Certains vont même trouver que c'est une bonne affaire. Il ajoute, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ses travaux l'ont mené à s'intéresser aux outils numériques utilisés par les forces de l'ordre pour faire leur travail. Il mentionne un logiciel dont la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Montréal, SPVM, se sont récemment portés acquéreurs et qui permet d'identifier en temps réel une personne en fonction de son habillement au moyen des caméras disséminées dans la ville. Si le SPVM affirme qu'il n'aura recours à cette fonctionnalité qu'en cas d'extrême urgence, des groupes de défense des droits de la personne redoutent pour leur part que l'usage soit rapidement étendu. Il y a en effet des précédents. En 2020, la Gendarmerie royale du Canada s'était fait taper sur les doigts par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada après avoir utilisé le logiciel Clearview AI, qui permettait de trouver l'identité d'un individu en cherchant dans une base de données de milliards de photos glanées sur Internet. L'entreprise a depuis cessé d'offrir ses services au pays. Stéphane Lemans-Langlois ajoute que toutes ces techniques n'ont pas fait leurs preuves en matière de prévention. Déjà en 2008, il s'intéressait aux caméras de surveillance qui poussaient comme des champignons dans les villes. 18 ans plus tard, son constat reste le même. On sait très bien que ça ne fonctionne pas. Jamais aucune étude n'a prouvé que les caméras dissuadent les criminels. Actuellement, on amasse le plus de données possible, sans trop savoir comment les utiliser. Surveiller la surveillance. L'étude des effets de la surveillance sur notre société porte un nom en anglais. Surveillance Studies, un domaine de recherche en sociologie qui examine le développement des pratiques de surveillance dans l'histoire et ce qu'elles signifient pour notre société. Si le concept de surveillance est vieux de plusieurs siècles, sa pratique s'est répandue en conjonction avec les technologies numériques, écrivait en 2022 le professeur émérite de sociologie de l'Université Queen's David Lyon, figure de proue du domaine. Il la décrit comme l'attention concentrée, systématique et routinière portée aux détails personnels à des fins d'influence, de gestion, de protection ou de contrôle. Avant les technologies, la surveillance demandait une action humaine. Maintenant, ces actions peuvent être automatisées. Il en résulte un écosystème complet d'outils nécessaires à la vie démocratique. Imaginez vivre sans Internet, qui contribue du même coup à augmenter la vulnérabilité de certaines personnes. En effet, non seulement la surveillance constitue une atteinte à la vie privée, mais comme l'affirme David Lyon, elle conduit aussi à une forme de tri social qui accentue les discriminations. Les données contribuent à placer des gens dans des catégories, ce qui a des effets concrets sur leurs chances dans la vie. On ne le sait pas, car ce classement se produit en arrière-plan, dit-il. Un exemple? On sait qu'Amazon a fourni des services de livraison plus ou moins rapides selon le code postal de la clientèle dans plusieurs villes américaines, les quartiers défavorisés étant moins bien desservis. Face à ces effets dérangeants, il pourrait être tentant de s'extirper des pièges à donner en se tenant loin des outils technologiques. Le chercheur souligne cependant que cette exclusion nous rend aussi invisibles lors de la prise de décisions politiques. Ainsi, pendant la pandémie de COVID-19, l'Agence de la santé publique du Canada avait obtenu la localisation de 33 millions d'appareils mobiles grâce à un partenariat avec TELUS, données qui l'ont aidé dans son effort contre le virus. Or, les personnes sans cellulaire ont été de facto exclues des données, notamment des personnes aînées et autochtones, justement celles qui avaient le plus besoin du soutien gouvernemental. La vie privée est un concept désuet, résume David Lyon, qui précise que la collecte des données et leur usage doivent être réfléchis collectivement lors de processus démocratiques. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les intérêts commerciaux des géants du Web et des entreprises de surveillance militaire font pencher la balance vers une surveillance accrue sans balises. Le gouvernement canadien n'est pas en reste. Il a notamment déposé en mars dernier un projet de loi, C-22, afin de modifier le code criminel pour faciliter l'accès aux renseignements relatifs aux abonnés. Toutes les entreprises de télécommunications pourraient ainsi se voir contraintes de transmettre certaines informations aux autorités policières. En 2025, un projet de loi similaire avait été critiqué, car il ouvrait la voie à un large éventail de pratiques d'exploration de données, notamment leur collecte auprès des courtiers en données, ainsi que d'autres systèmes de surveillance algorithmique, estimait alors Kate Robertson en entrevue avec Ricochet. Pour Stéphane Lemans-Langlois, il s'agit d'une situation intenable. « Nous avons toutes les composantes pour créer un État totalitaire », conclut-il. « Nous n'y sommes pas, mais il serait bien facile à mettre en place. » Vous écoutez « Sous surveillance », un texte de Gabriel Anctil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Le Québec est trop dépendant de la voiture, constate le comité climatique qui conseille le gouvernement. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. Les experts concluent qu'une réduction de l'auto solo serait bénéfique pour la santé publique et les finances des citoyens. Le système de transport des citoyens au Québec repose massivement sur des véhicules individuels, toujours plus gros et toujours très dépendants des énergies fossiles. Dans ce contexte, nous aurions tout intérêt à transformer notre vision de la mobilité, non seulement pour lutter contre la crise climatique, mais aussi pour en tirer des bénéfices économiques, pour soulager le fardeau financier des ménages et pour obtenir des gains en matière de santé publique. C'est le message qui se dégage d'une nouvelle note publiée ce mercredi par le Comité consultatif sur les changements climatiques, un regroupement indépendant d'experts qui conseille le gouvernement sur ses politiques climatiques en s'appuyant sur des analyses scientifiques. Tout en rappelant que le secteur des transports est le poids lourd du bilan québécois des émissions de gaz à effet de serre, GES, le comité souligne que malgré les progrès de l'électrification au cours des dernières années, le système de mobilité des personnes demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Cela signifie notamment que les avancées sont en grande partie neutralisées par des dynamiques plus profondes. Augmentation du nombre de véhicules, distance parcourue plus longue, réduction du nombre de passagers, étalement urbain et montée des véhicules plus lourds comme les VUS. Selon la plus récente édition de l'État de l'énergie au Québec, qui est produite chaque année par la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, La croissance du parc automobile depuis 1990 est près de deux fois plus importante que la croissance démographique. La catégorie de véhicules qui ont connu la plus forte progression est celle des camions légers, ce qui comprend les VUS, avec une hausse de 382%. Qui plus est, tout le système de mobilité des citoyens repose encore massivement sur l'automobile individuelle, ce qui entraîne des pertes astronomiques pour les finances publiques et l'économie en raison des coûts de la congestion et des dépenses pour les infrastructures routières. Les ménages québécois consacrent aussi des sommes importantes puisqu'il s'agit du deuxième poste de dépenses. Cette réalité est le produit d'un système de mobilité qui, historiquement, a été développé pour faciliter l'utilisation de l'automobile et qui a généré une forte dépendance à ce moyen de transport. Membre du comité consultatif sur les changements climatiques, Sylvain Gaudreau insiste donc sur le fait que l'usage de l'automobile ne relève pas uniquement de choix individuels, mais d'un ensemble de conditions concrètes qui le rendent souvent incontournable. Il cite en exemple l'organisation du territoire, l'accessibilité des services, la qualité du transport collectif, les horaires de travail, mais aussi la grandeur du territoire. Dans ce contexte, les experts réitèrent des solutions maintes fois répétées. Il faut réduire les besoins en déplacement, densifier les milieux de vie, rapprocher les services, mais aussi développer des milieux de vie où le transport actif et collectif est accessible et facile d'utilisation. Le comité rappelle d'ailleurs que le transport collectif et actif joue un rôle structurant pour les communautés en organisant les milieux de vie et en soutenant l'accès aux services, aux emplois et aux activités. Cette refonte de notre vision de la mobilité permettrait une réduction de l'usage de la voiture individuelle, mais faciliterait aussi l'électrification du parc automobile en réduisant la demande énergétique au cours des prochaines années. Au-delà de l'enjeu climatique, cette transformation représente une occasion à saisir. Une mobilité moins dépendante de l'automobile et des énergies fossiles permet d'améliorer la qualité de vie en réduisant la pollution de l'air, en renforçant la sécurité et en facilitant l'accès aux services essentiels, font valoir les experts dans leur note, qui sera suivie d'un avis déposé au cours de l'automne. Pour contribuer au virage nécessaire, le gouvernement doit cependant prendre acte du fait que les coûts des déplacements ne reflètent pas pleinement leurs impacts environnementaux et l'ensemble des coûts économiques, ce qui contribue à favoriser l'automobile. Il doit impérativement envoyer des signaux économiques et réglementaires qui orientent les comportements, notamment avec des mécanismes comme la tarification du carbone, la taxe sur les carburants ou les mesures d'écofiscalité. Ils permettent d'envoyer un signal clair en ce qui concerne le coût des émissions de GES ou le coût de l'entretien du réseau partiellement financé par ces mesures, en plus de contribuer à orienter les choix vers des options plus sobres. C'était « Le Québec est trop dépendant de la voiture », constate le comité climatique qui conseille le gouvernement. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.
Le problème est entre la chaise et le clavier. Un texte de Gabriel Anctil, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Lorsque je travaillais en soutien informatique, je rencontrais parfois des codes 18. Il s'agit d'une appellation humoristique qui indique que le problème se situe à 18 pouces de l'écran. Bref, qu'il est dû au comportement de la personne qui utilise l'outil. Si on vous demande de redémarrer votre appareil lorsque vous appelez une assistance technique, c'est pour s'assurer que vous n'êtes pas un code 18. Cette blague a un bon fond de vérité. Un outil informatique aura beau être conçu de la manière la plus intuitive possible, avoir suivi un rigoureux processus d'assurance qualité, il se trouvera toujours une personne pour l'utiliser d'une manière imprévue et inadéquate. Ce problème serait rigolo s'il n'était pas aussi dangereux. 75% des spécialistes en cybersécurité estiment que l'erreur et l'inexpérience humaine représentent le risque principal dans leur domaine. Les données leur donnent raison. Les tentatives d'hameçonnage, où une personne malveillante se fait passer pour une institution crédible, comme une banque, pour accéder aux données d'un individu, étaient le point de départ de 25% des attaques informatiques en 2024. Il y a une décennie, un rapport d'IBM déclarait qu'une erreur humaine est présente dans 95% des incidents de sécurité. À l'époque, cette donnée avait attiré l'attention sur un problème négligé. Un château fort aura beau avoir des murs épais, ils ne préviendront pas l'invasion si la personne qui garde la porte se fait berner. Ce type d'attaque porte même un nom, l'ingénierie sociale. Les humains sont, après tout, bourrés de failles. Chaque jour, nous prenons des décisions et portons des jugements sans même nous en rendre compte. Pour se simplifier la tâche, notre cerveau prend des raccourcis qui mènent à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Le biais d'optimisme nous fait croire qu'un malheur n'arrivera qu'aux autres et pas à nous. Le biais d'angle mort nous convainc que les autres sont plus biaisés que nous. L'ingénierie sociale consiste à exploiter ces biais pour nous soutirer des informations. Une personne qui nous appelle et nous parle avec autorité nous semblera fiable, même si elle nous demande des informations confidentielles. N'est-ce pas une belle qualité que de faire confiance aux autres? Lorsque j'entends des spécialistes nous dire que tel ou tel outil viendra résoudre un problème de société, je repense toujours au Code 18. Car entre les belles paroles et l'usage réel, il demeure une chose impossible à contrôler. Les humains. C'était « Le problème est entre la chaise et le clavier », un texte de Gabriel Anctil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.